Le générique de Vendredi Théâtre. Le générique de Vendredi Théâtre, il s'agit d'un extrait de Roméo et Juliette de Prokofiev avec Andriy Gavrilov au piano. Vendredi Théâtre, c'est l'avant-dernière de l'année. Donc, et puis on va bientôt fêter la centième. Je suis avec Grazia. Bonjour Grazia.
Bonjour.
Tu vas bien par ce jour d'hiver?
Oui, ça va, et toi?
Moi, ça va très bien. Un premier plateau, on va parler donc de Pirandello, puisque à Jean-Villard, il y a ce soir, on improvise d'après Pirandello, et j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Julien Guy, bonjour.
Bonjour.
Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas eu l'antenne. Fanny Rudel,
bonjour.
Et Dominique Léandry. Bonjour. Alors, ce soir, on improvise une pièce de Pirandello. C'est une pièce qui fait partie d'une trilogie, si je ne me trompe.
La trilogie du théâtre dans le théâtre.
Il y a combien de pièces? Il y a trois pièces.
Trois pièces. Il y a... C'est la troisième pièce. Il y a six personnages en quête d'auteur, qui est la plus connue. Mm-hmm. Chacun son idée, qui est une pièce déjà moins connue. Et ce soir, on improvise.
Moi, j'avais entendu parler de Comme si, comme ça. C'est pas le même titre, peut-être?
Ah, peut-être Comme si, comme ça, il y a deux titres sur chacun son idée.
Oui, suivant les traductions aussi peut-être. Alors, pourquoi avoir abordé ce spectacle de Pirandello?
Sur Pirandello, en fait, avant de commencer à travailler dessus, il y a à peu près maintenant un an et demi, je ne connaissais pas, et c'est Fanny qui m'en avait parlé, qui m'avait dit, tiens, il y a quelque chose qui peut être intéressant par rapport à ta proposition et au théâtre que tu proposes. Et donc, je me suis un peu penché sur Pirandello. Et en effet, c'est-à-dire sur le par rapport au théâtre, en tout cas dans des coupes, celles qui ne sont pas directement sur le théâtre dans le théâtre, il y a toujours l'idée d'un double jeu pour les personnages, où ils cherchent tous la limite, même si un personnage doit en jouer un autre à un moment donné, parce qu'en société, il est obligé de ne pas perdre la face, il est obligé de faire croire que... Soit un auteur pour cacher quelqu'un avec une histoire, toujours des histoires un peu violentes, qui soient soit conjugales, soit de meurtre, pour cacher quelque chose, des gens qui sont un peu à côté de leur vie et qui essaient de garder la face. Et après, et dans le théâtre, il est vraiment en train de jouer sur les personnages et le rapport entre les personnages et les comédiens.
Alors toi, tu es le metteur en scène,
oui.
Mais il y a un autre metteur en scène.
Oui.
Qui est Dominique. Est-ce que tu peux nous expliquer qui fait qui et qui fait quoi?
Ben, en fait, dans la pièce, il a voulu écrire ce soir en improvise. Il a eu son expérience en troupe, parce qu'il a été une sorte de chef de troupe et de metteur en scène dans une troupe pendant 3 ans, qui a très, très bien, très, très bien fonctionné. Et il s'est rendu compte un peu de comment fonctionnait le théâtre concrètement en se plongeant lui-même dans l'action. Et c'est là qu'il a écrit ses pièces sur le théâtre et dont ce soir on improvise. Pour lui, il voyait trop de mise en scène. C'était l'époque des grandes machineries du théâtre. Il voyait trop de mise en scène où c'était devenu un prétexte. Le texte devenait un prétexte. Et il était persuadé que, il dit, quand les personnages sont là, le château de cartes de la mise en scène s'écroule pour vraiment laisser la place à toute l'émotion et à tout ce que peuvent... toutes les subtilités et toutes les vies des personnages qu'on n'arrive pas à cadrer, à gérer. Et donc il a voulu mettre ça en scène. Donc il a inventé un personnage, un metteur en scène, le docteur Ingfus, dans lequel et en même temps il lutte contre lui, parce qu'il essaie de le casser au fur et à mesure du spectacle, et en même temps il lui fait dire ce que lui dit, ce que lui pense du théâtre. Quand on lit les conférences de Pirandello sur le théâtre, l'ouverture et le discours du metteur en scène, c'est exactement le discours de Pirandello. Donc il y a cette contradiction déjà qui fait vivre à ce personnage. Et comme moi je voulais moderniser aussi l'approche, dans la pièce, il y a la troupe, il y a le premier acteur, la première actrice, le premier acteur burlesque, la première actrice comique, l'actrice tragique. Donc nous, on ne fonctionne plus comme ça au jour d'aujourd'hui, donc il fallait trouver comment un fonctionnement de troupe aujourd'hui. Et après, maintenant, la mise en scène n'est pas réservée à des hommes qu'on appelle maîtres, qui sont là avant tout le monde, qui repartent après. Donc je me suis dit, ça peut être bien aussi que ce soit une femme qui soit metteur en scène, et j'ai proposé donc le rôle à Dominique.
Voilà. Et Dominique, elle se fait un petit peu chahuter quand même par ses comédiens. Il y a une espèce de rébellion des comédiens contre la metteuse en scène.
Oui, c'est la fable. Ça raconte ça, comment les metteurs en scène sont tyranniques et elle est dans son œuvre, elle veut faire son spectacle et ça marche pas exactement comme elle veut. Voilà.
Alors ce qui est curieux, c'est qu'au départ, elle explique que c'est l'adaptation d'une nouvelle de Pirandello sur la scène. Donc il y a une espèce d'abîme de temps en temps dans le spectacle.
Oui, mais d'ailleurs, souvent, Pirandello écrivait des nouvelles et après, lui-même partait. Donc, en fait, c'est vraiment une figure en même temps. C'est en même temps une figure de Pirandello qui dit « Pirandello, je l'ai éliminé ». Mais en même temps, elle dit... Alors, il y a des metteurs en scène qui se sont fait avoir. Et donc, il y a eu des rébellions sur le plateau et tout ça. Et puis, en fait, il va se passer la même chose. Elle essaye d'éviter. Enfin, il dit qu'il va éviter ça, puisqu'il élimine l'auteur. Et en même temps, c'est exactement ce à quoi on assiste. C'est-à-dire, il y a une révolution qui fait que la fable ne peut pas être racontée jusqu'au bout, ou en tout cas pas comme elle l'avait souhaité.
Les acteurs n'acceptent pas la figure du metteur en scène, qui justement à l'époque commençait à devenir quelqu'un de tout puissant.
Oui. Hein,
et cette figure hautaine, il disait supponente, c'est pas traduisible en français. Et bon, on dirait hautaine, je pense. Et je trouve qu'il y a une critique du metteur en scène qui est très virulente aussi.
Ah, c'est évident, oui. Ouais. Mais là où c'est drôle, c'est que... Et en plus, il fait dire à ce metteur en scène, tout le temps, que les auteurs ne sont pas à la hauteur. Mmh. Et il passe son temps à dire que les auteurs n'ont pas d'imagination, ouais, ne sont pas capables d'écrire pour la scène, ne sont pas capables de comprendre qu'est-ce qu'il faudrait écrire pour la scène. Et elle prétend même inventer... Enfin... Elle prétend, par exemple, à un moment donné, il y a un personnage qui meurt, elle prétend que c'est elle qui l'a inventé et que l'auteur n'y aurait même pas pensé. Donc, elle supplée, comme elle dit, aux défaillances du texte. Mais c'est l'auteur qui écrit ça, c'est lui-même qui écrit ça. Donc, il joue avec ça.
Oui, il y a tout un jeu.
Et donc, la mise en abîme, elle est à plein de niveaux, quoi, tout le temps.
Et c'est vrai que Pirandello, il a abordé le théâtre un peu sur le tard. Il a abordé le théâtre après la cinquantaine, si je ne me trompe pas. Donc, il a fait une carrière de romancier, de nouvelliste, et c'est après 50 ans qu'il a commencé à aborder le théâtre et à réfléchir sur le théâtre.
Il est tombé amoureux d'une actrice.
Ah, ça j'ignorais le détail.
Je ne savais pas non plus.
On va faire une petite pause musicale, puisque en fait, il y a un compositeur d'opéra qui revient, un opéra qui revient régulièrement, c'est le Trouvert de Verdi, on expliquera après pourquoi. Et ben, j'ai choisi un petit extrait du Trouvert et j'ai trouvé donc Maria Callas, c'est un extrait de l'acte 4.
Thank you.
Et non, ce n'était pas la voix de Gilles, mais bien celle de Maria Callas dans cet extrait du Trouvert, un extrait de l'acte 4. Je vous rappelle que vous êtes toujours sur Vendredi Théâtre, que nous parlons de la pièce au programme de Jean Villard. Ce soir, on improvise. Je suis avec Julien Guille, Fanny Rudel et Dominique Léandry. Donc, on disait que ce Trouvert, il revient régulièrement dans cette pièce.
Verdi est un auteur, un compositeur, auteur très célèbre, très populaire, et qui a eu des difficultés à rentrer dans le monde du lyrique. Puis une fois qu'il est rentré par ses œuvres, il a été adoubé
il incarnait l'Italie.
Par les gens, voilà, tout le monde peut chanter.
Symbole de l'unité nationale.
Oui, c'est à un moment donné, voilà, il a servi à ça. Donc du coup. C'est l'intérêt de Pirandello aussi, qui crée des pièces comme ça, à tiroir, à clé, mais qui se basent sur une envie aussi d'être entendu. Et donc du coup, il a toute une partie qui dans le spectacle doit être traitée de façon assez particulière, mais où les acteurs, ce sont des acteurs chanteurs qui chantent des morceaux de bravoure du Trouvert de Verdi. Mmh.
Ce qui n'est pas un opéra facile à chanter, d'ailleurs.
C'est un des plus difficiles, ouais, apparemment. Ouais.
Alors, je vais demander un exercice, si c'est possible, aux comédiens. C'est savoir si on peut avoir un petit extrait du spectacle, si c'est possible.
Bien sûr. Attendons un peu ensemble. Il faut laisser le temps à la mère et à leur fille de rentrer chez elles après le théâtre, accompagnées de leurs amis militaires. Heureusement que je suis là devant vous ce soir, mesdames et messieurs. Et j'espère que vous ne regretterez pas de voir comment on monte un spectacle, non seulement sous vos yeux, mais pourquoi pas avec votre collaboration. Le théâtre, mesdames et messieurs, est la gueule grande ouverte d'une grande machine qui a faim. Une faim que, messieurs les poètes, ont le tort de ne pas savoir rassasier. Cette grande machine du théâtre, comme tant d'autres machines qui n'ont cessé de se développer de façon extraordinaire, il est déplorable que l'imagination arriérée des poètes ne sache plus l'alimenter comme il faut. On refuse de comprendre que le théâtre est d'abord spectacle et vie. Art, bien sûr. Création, mais momentanée, éphémère, un prodige, la forme en mouvement. Et ce prodige, mesdames et messieurs, ne peut être qu'éphémère, en un instant, sous vos yeux, créer un tableau, et puis un autre tableau à l'intérieur de ce tableau. Et puis encore un tableau à l'intérieur de ce tableau. Un instant d'obscurité. Une rapide manœuvre. Tenez, je vais vous faire voir. Action.
Bravo, parce que c'est pas simple de passer du plateau au micro. On disait un petit peu, on parlait hors antenne, il y a eu des retours, puisque c'était la première hier, des retours de spectateurs. Est-ce qu'il y a des spectateurs qui se sont fait piéger, qui ont vraiment cru que c'était le metteur en scène qui venait sur scène et...
Alors apparemment oui. nous directement, comme on a surtout rencontré des gens qui connaissaient le principe, pour les retours que j'ai eus directement. Mais Jean-François nous a dit, qui s'occupe de la... des relations publiques du théâtre, qu'il était à la sortie. Et donc la metteur en scène est très interventionniste pendant le spectacle, jusqu'à provoquer une grève, une rébellion chez les acteurs. Et en sortant, elles ont dit, mais c'était insupportable cette metteur en scène, il faut qu'elle ait joué les acteurs. Et c'était un dialogue, justement, Jean-François me disait, j'étais un peu, une sorte de dialogue de fou, un peu, de se retrouver... à expliquer à quelqu'un que c'était écrit, que c'était, mais qui ont pris le spectacle. Donc on peut supposer que ce ne sont pas les seuls là-dessus. Donc
Oui, parce que je crois qu'en plus dans la pièce tout est minutieusement écrit.
Il y a des petites parties qui sont en sorte d'improvisation directe avec ce qui se passe pour qu'on puisse avoir une, cette impression de réel, mais après, les scènes sont quand même, pour la plupart, très écrites. Ce qui était difficile, c'est la parole aujourd'hui des acteurs sur leur propre travail, parce que là, de faire un retour 100 ans en arrière, on n'a pas tout à fait les mêmes préoccupations. Ah, donc on a essayé de réduire cette partie-là. Enfin, pas de là, on n'a pas réécrit, mais que les acteurs puissent improviser là-dessus par rapport à leur ressenti sur le travail même. Mais après, toutes les scènes sont écrites. Bon, ça a été retravaillé, coupé, ouais. Mais c'est, on n'a pas réécrit des parties, en fait.
Mmh. Alors, je disais hier, c'était la première, c'était une création, Jean Villard.
Oui, c'est une création.
Voilà, c'est la première fois où vous le jouiez.
Ouais.
Est-ce que c'est un spectacle qui va tourner après ?
Alors, on est avec le théâtre Sortie Ouest et la ville de Pézenas, on va faire des représentations dans le théâtre historique de Pézenas.
Mmh.
Puisqu'au début, à la base, le projet, c'était... j'avais envie, quand j'avais commencé à rêver dessus, de ne jouer que dans les théâtres à l'italienne. Et il y a 7 théâtres à l'italienne sur la région.
Mm-hmm.
Et donc, pour l'instant, c'est le théâtre historique de Pézenas, qui est le premier à te soutenir, qui soutient le travail de la compagnie depuis longtemps, la ville de Pézenas. Donc du coup, là, on va jouer dans le théâtre historique, dans le théâtre à l'italienne, là-bas. Et après, on va jouer à Saint-Jean-de-la-Blaquière, puisqu'on est aussi, on est coproduit par la communauté de communes Lodévois et Larzac.
Mmh.
Et en fait, on va jouer dans une salle des fêtes magnifique. On va installer un gradin à l'intérieur de la salle qui va rester nue avec un gros blason Saint-Jean-de-la-Blaquière, un drapeau français. Je crois que ça va aller très bien avec cette idée brute du spectacle. Puisque là, pour le théâtre Jean Villard, et par rapport au théâtre Enragé, on essaie de laisser le lieu à nu. Donc là, on a dépend de rayonner tout le théâtre Jean Villard. Et donc, moi, j'aime bien jouer dans des salles qui restent dans un état brut, un peu.
À propos du théâtre enragé, dans la feuille de salle, il y a un manifeste pour un théâtre enragé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce manifeste ?
Oui. Je suis content que les gens puissent le voir, en fait, puisque c'est dans tous les dossiers. Bon, il est sur le site aussi, mm-hmm. Mais c'est vrai que quand on voit les spectacles, le spectateur qui ne connaît pas averti, parce que moi, je fais souvent aussi du hors les murs, donc... C'est des gens qui plus ou moins sont au courant de ce qu'ils peuvent aller voir. Et donc l'idée, c'est... J'étais content que ce manifeste puisse rencontrer du monde. Alors je n'ai pas discuté avec des spectateurs que je pouvais ne pas connaître, ceux qui ont discuté avec Jean-François par exemple, pour savoir ce qu'ils avaient pensé de l'idée de voir le manifeste. Mais moi, ce que j'ai voulu, c'est mettre des points au tout début de la création de la compagnie, c'est-à-dire monter des projets avec la place de l'acteur... On n'a pas forcément beaucoup d'argent pour monter les projets et envie qu'ils existent quand même. Donc la question, c'est que, bon, comment on fait ? Donc il faut faire des choix. Donc les choix, c'est... Moi, j'ai une formation de comédien. Je suis toujours d'ailleurs comédien. Mais c'est les acteurs et le texte. Tout ce que j'ai vu toujours en répétition, quand à des moments, je voyais des acteurs avec un texte, je me disais, bon, mais ça suffit. Puis après, il y a le décor qui arrive, il y a les lumières. Donc la base du manifeste, c'est ça, c'est de se dire, bon, si on part qu'avec des acteurs et un texte, donc on enlève... la lumière, on enlève le son, on enlève les costumes, on essaie de voir quels signes qu'est-ce qu'on peut préserver d'essentiel de chaque chose, et puis on travaille avec les acteurs. Au début, avec l'acteur, c'était moi, je travaillais tout seul. Après, j'ai fait un spectacle où je jouais aussi, et je me suis dit, c'est intéressant de proposer ça à d'autres acteurs et de s'extraire de ça et de leur faire cette proposition-là. Et donc après, j'ai commencé à être juste dans la mise en scène. Et ce manifeste, ça m'a permis de cadrer cette chose-là. Moi, je l'ai réécrit il y a à peu près deux ans, à peu près. C'est-à-dire, il y a le premier jet, enfin, j'ai réécrit, en tout cas sur la forme. Parce que c'était une façon de me dire, c'est pas par défaut. C'est pas par défaut. Il n'y a pas d'argent, il y a peu d'argent, il y a peu de moyens. Mais plutôt que ce soit un manque, faisons que ce soit une force. Et du coup, je me dis, bon, ben, un manifeste, ça me donne une ligne directive. Et je la tiens. Et j'essaie à chaque fois. Après, il y a des fois où on a envie de l'oublier un peu, cette ligne directive. Puis les acteurs sont là pour dire, est-ce que c'est vraiment théâtre enragé, ça ? Est-ce qu'on ne s'installe pas un peu trop, là, tout ça ? Donc c'est toujours remis dans la balance à chaque fois, à chaque moment des répétitions.
Mais l'intérêt de se faire des règles, c'est aussi de les transgresser, non ?
Oui, bien sûr. mais voilà, comment on peut les transgresser.
Grazia, tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, je voulais rajouter à propos donc des créations lumière, des sonores. Hier soir, vous avez projeté sur un mur donc un extrait du Trou Vert. Il y avait deux acteurs devant, dont Fanny et l'autre, je ne connais
Camille.
Pas. Et Camille, pardon.
Camille Dalloz.
Voilà, excusez-moi, je ne me souviens pas du nom. Et donc, qui était vraiment en osmose avec cette projection. Et j'ai trouvé ça vraiment très poétique, très, très beau. Franchement, c'est...
Merci, mais il y avait... le fait qu'il y ait... Alors après, c'est bon, on commence à transgresser les règles.
On y arrive.
Non, mais le fait qu'il y ait pour chaque spectacle, il y a une autorisation. C'est-à-dire, forcément, le propos, c'est-à-dire, on ne peut pas prendre le manifeste et le plaquer sur un spectacle et dire, voilà, ça va le faire comme ça, et sans se poser de questions. Donc forcément, il y a des endroits où on se dit... Bon, ben l'essentiel, qu'est-ce que ça pourrait être à ce moment-là ? On a essayé de se passer de la projection, elle ne devait pas forcément y être au début. On a essayé avec d'autres projections. C'est une proposition de Pirandello qui est une projection d'un opéra au milieu du... C'est encore une idée de son metteur en scène.
C'est la question que j'allais poser.
Oui, c'est une idée à lui. Il y a une projection dans la pièce. Donc du coup, on se dit, bon, mais comment on s'en empare ? Et bon, ben après, ça a été cette idée-là avec la... L'idée que les lumières et le son peuvent intervenir dans le théâtre enragé s'ils interviennent de manière poétique. Donc,
c'est réussi. Là, voilà.
Ouf.
Ah, je voudrais parler un petit peu de la compagnie provisoire. Quels sont les projets de la compagnie provisoire, s'il y en a ?
Il y en a.
Je te connais, donc je sais qu'il y en a.
On a créé un spectacle jeune public. On s'est un peu attelé aussi au jeune public parce que c'est quand même des fois des spectacles qui sont d'un accès, qui peuvent être d'un accès un peu difficile dès que... jeune public, je parle de 10-12 ans. Il faut quand même s'accrocher sur les propositions. Donc là, essayer de faire un spectacle qui puisse parler à partir de 10 ans, même 8 ans... À des jeunes, tout en gardant ce principe d'un théâtre nu avec les acteurs, et seulement les acteurs et le texte. Ça s'appelle L'Ogrelet, de Suzanne Lebeau.
Ah, je connais.
Ouais. Et ensuite, cet été, normalement, on devrait aller au festival Villeneuve-en-Seine avec le Pirandello aussi, donc ce qui va voir, en espérant que la vie puisse continuer du spectacle. Après, on va essayer de toujours continuer à tourner les spectacles qu'on a créés, c'est-à-dire il y a possibilité qu'on joue le spectacle sur Léo Ferré
vu.
À Grabel, il y a
très bien.
Qui peut tourner. On va essayer de voir comment on peut faire tourner le spectacle Médée Restitution. Et après sur
il y avait eu un spectacle sur Walt Whitman si je me trompe pas.
Sur Walt Whitman, oui, qui joue en mai au 13 ans. C'est donc Fanny qui assure la mise en scène du spectacle. Et après le prochain projet, ce serait de travailler sur je voulais travailler sur la torture et je ne sais pas par encore quel biais l'aborder, mais je commence à regarder un peu ce qui s'est passé en Algérie et sur le ça ce serait notre histoire, alors c'est assez large, mais c'est sur la position du tortionnaire dans un acte de torture.
Ah bah j'avais une pièce là-dessus, tiens, je t'en parle en antenne.
Voilà, j'avais envie d'aborder ce thème-là pour aller au bout de toutes ces situations un peu violentes qu'on peut voir, notamment dans Ce soir on improvise, que ce soit dans Diktat, dans Macbeth, dans toutes les pièces que j'ai abordées. Souvent, il y a la question de la violence et de personnes enfermées et donc voilà, j'aimerais essayer de poursuivre cette voie-là, quoi.
Bah, tu nous tiens au courant, de toute façon, pour Vendredi Théâtre, vous êtes tous toujours les bienvenus. On rappelle que le spectacle s'appelle « Ce soir on improvise » d'après Luigi Pirandello. Ce soir, c'est donc au théâtre Jean Villard, c'est à 20h. On n'a pas dit le nom des autres comédiens. Il y a donc, c'est aussi avec Marc Bellet et Camille Dalloz. On l'avait cité, Camille Dalloz. Merci de nous avoir accompagnés pour ce premier plateau. Mais on va se quitter avec encore le Trou Vert, avec la grande rivale de Maria Callas. Elle ne pouvait pas se sentir, c'est Renata Tebaldi. Et Renata Tebaldi, quand on lui posait la question à Maria Callas, elle disait « Celle-là, c'est du soda, moi je suis du champagne ». Et on va interrompre Madame Renata Tebaldi dans cet extrait du Trouvert. Je vous rappelle que vous êtes toujours sur l'émission Vendredi Théâtre, c'est l'avant-dernière de l'année. Et nous recevons comme deuxième plateau un spectacle qui se déroule à la Vista, Don Quixote, ou Don Quichotte, je ne sais pas comment il faut le prononcer.
Don Quichotte, oh là, attention,
Don Quichotte.
Déjà on peut en parler.
J'ai le plaisir et le bonheur et l'avantage de recevoir Benoît Ramos, bonjour.
Bonjour.
Alors moi je n'ai pas encore vu le spectacle, puisque j'étais hier à Jean Villard, et que c'était la première donc, de ce Don Quichotte. Par contre, Robin, bonjour, nous a rejoint.
Bonjour.
Et tu l'as vu avec Christopher, bonjour Christopher.
Bonjour, bonjour.
Alors, qui veut commencer? Robin, tiens.
Oui, alors Don Quichotte, c'est un sacré morceau. Du coup, quand on va l'aborder, on se demande, bon, alors toujours des pièces aussi énormes, qu'est-ce qu'il va réussir à en sortir de l'essentiel ou qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant? Et du coup, là, c'est... comment dire? C'est... c'est une pièce étonnante.
Déjà, c'est bien.
C'est voilà. Ça existe, ça a été créé, c'est bon. C'est une pièce qui va résumer un petit peu des passages de Don Quichotte avec des intervenants, avec un narrateur qui joue le rôle du coup de l'intermède, parce que pour raconter tous les sauts d'histoire en histoire, de passage en passage, et avec des moments d'analyse du spectacle fait par du coup des personnages qui sortent comme ça d'un milieu très universitaire, très guindé, et qui viennent faire des interviews sur scène, comme si on était dans un plateau de France Culture bas de gamme ou caricatural, et du coup qui viennent un petit peu provoquer le spectateur et provoquer les acteurs. Et du coup il y a vraiment cette tension du coup entre l'histoire de Don Quichotte où on voit tout le ridicule et tout le sublime du personnage dans sa manière d'être chevaleresque et insensée, folle et imaginative. Et du coup, c'est ces intermédiaires qui vont ponctuer le récit du coup, pour donner le contrepoint un peu total du coup, de la manière d'être de Don Quichotte avec ses analyses complètement exubérantes et...
Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup cet aspect clownesque. On discutait hein, avant d'entrer sur plateau hein, avec Benoît Ramos qui joue le rôle
du narrateur,
voilà. Et donc c'est une création. Hein. Vous me disiez que cet aspect clownesque, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le livre.
Oui. Don Quichotte, c'est un feuilleton d'abord pour commencer, c'est un feuilleton populaire. Le tout début de la réflexion de Mathieu Machina qui a fait la mise en scène, c'était la lecture feuilletonesque orale. C'est-à-dire que Cervantes écrivait, beaucoup de chapitres du bouquin en fait sont interchangeables, on peut les raconter indépendamment les uns des autres. Et c'est comme ça que ça se faisait à l'époque, c'est-à-dire que les gens... ceux qui savaient lire lisaient pour les autres. Et donc, dans tous les villages, dans toutes les cours, dans tout ça, on se racontait un épisode de Don Quichotte. Et c'était un peu ça qui était la base de la réflexion, de vouloir rendre un peu cet aspect... c'est ce qui fait qu'il y a un narrateur, au final, qui a un aspect conté dans l'œuvre. Et ensuite, la réflexion, en fait, ben, c'est tout ce qu'on pose au début du spectacle, c'est-à-dire... C'est ce que tu as dit, Robin. C'est... « Waouh, c'est Don Quichotte, c'est énorme, c'est un monument, c'est gigantesque, comment on va faire ?» Et voilà, et donc c'est exactement ce qu'on pose au début du spectacle. C'est quatre personnes qui arrivent et qui se disent « Waouh, c'est Don Quichotte, c'est énorme, on va faire ce qu'on peut les gars, et c'est parti !»
Oui, c'est vrai.
Et voilà, et c'est exactement là-dessus qu'on est parti, avec en sous-main le fil qui est de se demander ce qui est finalement... pour tout classique, une question importante qui est à qui ça appartient. Et c'est pour ça que dans le spectacle, il y a énormément de tensions entre les différents protagonistes, parce que je ne peux pas dire personnages, parce que personnages fixes, il y en a deux, il y a Sancho et il y a Quichotte. Après, il y a donc Julia Malençon qui fait tous les persos qui ne sont ni Quichotte ni Sancho.
Est-ce qu'il y a Rosinante?
Il y a Rocinante qui existe à sa manière. Qui existe à sa manière. Voilà, oui. Et je tiens à préciser, parce que ça, c'est... Rocinante est un garçon. Ah.
Voilà. Et ce qui est étonnant, du coup, tu en parlais sur l'appropriation des classiques, c'est que du coup, en fait, tu as tendance à sortir, du coup, à vouloir sortir la pièce de cet aspect universitaire, de cet aspect, du coup, d'analyse.
Ouais, c'est ça, mais c'est surtout les classiques, c'est un peu comme ça. Les universitaires auront leur point de vue qu'ils penseront être le bon. Et là encore, c'est un roman, mais dans les classiques théâtraux, c'est encore pire, parce que vous avez donc les universitaires qui ont toujours cette réflexion, les metteurs en scène qui ont une réflexion théâtrale, les comédiens qui ont une réflexion de comédien, etc., etc., etc. Et ce qui fait qu'on a presque l'impression de ne pas parler de la même chose. Mmh. Et quand c'est pour ça que, déjà, ça empêche des gens, notamment, de lire Don Quichotte, parce qu'on dit « Ah, c'est Don Quichotte !» En plus, on a un peu tendance à ne pas vouloir lire les trucs trop gros de nous.
Bah, c'est 1600 pages.
Oui, mais 1167 dans l'édition de poche.
D'accord.
Mais c'est en deux volumes qui sont indépendants l'un de l'autre. Donc, on peut se contenter de lire le premier.
En une heure et demie de spectacle, ça ferait 14 pages par minute.
20 pages à la seconde. 20 pages à la seconde.
20 pages à la seconde.
Ouais, mais on y arrive. Mais on met les deux volumes.
Ça frise la performance.
C'est étonnant parce qu'on voit beaucoup aussi en ce moment au théâtre des comédiens du coup qui se réapproprient en fait les œuvres et qui du coup qui en parlent avec un point de vue extérieur toujours, notamment sur les classiques. On avait vu ça avec Alcide à Jean Villard et c'est quelque chose qui revient du coup, cette volonté des comédiens du coup. Ben, j'imagine, j'aimerais bien que vous me parliez du coup la manière dont vous avez, vous comédiens, interagi avec le metteur en scène et du coup par le fait donc la manière dont vous sortez des personnages, dont intervient le narrateur.
Je trouve ça très sain, déjà. Je pense que c'est normal. Parce que pendant longtemps, on a confondu respect d'un classique avec sacralisation. C'est pas parce que c'est un classique qu'on a le droit de rien en faire. Sinon, ça n'appartient plus à personne. C'est le tuer de faire ça. Donc se le réapproprier, continuer à le faire, parce que voilà, il faut le faire. C'est normal et c'est sain. Et nous, on a travaillé comme ça, c'est-à-dire qu'on avait la distribution plus ou moins dès le début. Donc on savait que Christophe Pujol ferait Don Quichotte, qu'Olivier Capelier ferait Sancho Panza, que Julia ferait tous les autres rôles. A priori, au début, il y avait un peu des réflexions. On se disait que, puisque c'était la seule fille, en fait, elle serait plus ou moins Dulcinea et que Dulcinea apparaîtrait du coup dans tous les personnages féminins. Et puis finalement, on a désincarné complètement Dulcinea. et que moi, je ferais le narrateur, puisque je suis conteur, donc forcément, on m'a mis à la narration. Et on a travaillé donc en création collective avec Mathieu, qui tranche et qui a finalisé la version texte qu'on utilise. Voilà, donc on a fait ça en 3 sessions de répétition. En 3 résidences à la Vista, en fait. Donc, sous forme de petits chantiers, de lecture. Donc, évidemment, on a tous lu le livre, on a tous voulu... on a tous dit les passages qu'on voulait mettre. Après, évidemment, il y a des passages que, si on ne les met pas, on se fait tomber dessus. On fait un Don Quichotte sans parler des moulins. Vous êtes sûr que vous avez lu le livre? Voilà, mais à part ça, on a fait comme ça. Puis après, évidemment... ça a été un travail de découpage à la tronçonneuse, quoi. Ça a été resserré, parce qu'on part d'une œuvre qui est gigantesque en volume pur, qui est très très longue, et il faut qu'on a voulu condenser en moins d'une heure et demie. Donc on a travaillé comme ça, et en tranchant, en force de trancher, voilà.
On va faire une petite pause musicale pour rester un petit peu dans l'atmosphère espagnole avec Manuel de Falla. Manuel de Falla qui avait d'ailleurs écrit un opéra sur Don Quichotte que je n'ai pas retrouvé dans mes archives, mais je vais regarder. Et donc un extrait de Suite populaire espagnole donc de Manuel de Falla avec Jacqueline Dupré au violoncelle.
Thank you.
Et oui, Jacqueline Dupré, l'immense Jacqueline Dupré, dans cet extrait donc des suites populaires espagnoles de Manuel de Falla. Vendredi théâtre, toujours vendredi théâtre, je suis avec Robin et Christopher pour parler de la pièce Don Quichotte avec Benoît Ramos.
Bonjour encore.
Oui, moi je voulais revenir sur cette pièce. Il y a quelque chose que j'aime, que j'ai beaucoup apprécié, c'est le travail de mise en scène qui est un peu fait de briques et de brocs et qui donne un effet, c'est convaincant. Il y a plein de trouvailles, plein d'astuces. Par exemple, on parlait de Rocinante tout à l'heure. On imagine bien
qu'il y a... On a appris que c'était un garçon.
Voilà, on imagine bien qu'il n'y a pas un cheval qui est sur la scène du théâtre La Vista. Hein, donc ça ressemble plutôt à...
On voulait, mais on n'a pas eu l'autorisation de la SPA, en fait.
Ah, c'est dommage.
Les institutions sanitaires ont refusé. Sinon, on les avait. On avait un baudet, un cheval...
C'est plutôt joué à la Monty Python, si tu vois ce que je veux dire.
Et d'ailleurs, il y avait Terry Gilliam qui avait essayé de faire un Don Quichotte il y a quelques années, s'était cassé les dents, qui a fait un parcours.
On est sorti un documentaire absolument génial, qui s'appelle L'Hostie la Mancha.
Oui. Et puis il y a Orson Welles aussi qui avait essayé de faire un Don Quichotte. Oui.
On a à un moment, on pensait faire référence à la célèbre malédiction de Don Quichotte en faisant tomber un projo au milieu du spectacle.
Mais ça n'est
pas resté.
Mais même pour d'autres moments où finalement, sans beaucoup d'accessoires, vous réussissez à donner l'illusion des décors, de plein de choses.
Hein. Bah, au final, là aussi, c'est resté dans l'esprit du livre, en fait, qui est avant tout un livre qui parle d'imagination.
Exact.
Donc... Et c'est quelque chose à laquelle je suis particulièrement sensible parce que je suis conteur. Du coup, moi, quand je raconte le spectacle, il se passe dans l'imagination des gens. Je parle et ça provoque des images. Et c'est ce qu'on a voulu faire, en fait. Et c'est finalement... c'est aussi une manière de faire en sorte que le public fasse son spectacle par rapport à vouloir imposer des images que nous, on a.
Et parce qu'il y a tellement de choses qui sont présentes par leur absence, qui sont vraiment belles. Rocinante, par exemple, du coup, qu'on voit s'affaisser
sous le poids. Oui, c'est un gros travail, ça.
Oui, ça, j'imagine, parce qu'il y a vraiment une performance d'acteur, du coup, dans le déhanchement de Don Quichotte pour faire ressentir le poids.
Parce que c'est une chose de mimer un cheval, c'est une chose de mimer un cheval pourri.
Et beaucoup de scènes aussi qui se passent en fait hors plateau, à côté, à chaque fois que Don Quichotte se prend des roustes, quand il veut sauver,
aussi, c'est un énorme
quand il veut sauver une vierge.
On a changé d'acteur trois fois.
C'était très drôle. Hein.
Puis bon, finalement, quand tu parlais de la distribution des acteurs, ça saute aux yeux du coup que... Que chacun est fait un peu pour son rôle, que ce
oui,
soit
oui,
Sancho Panza,
oui.
Don
oui,
Quichotte, ils ont
c'est
la,
sûr,
ils ont
c'est sûr.
La tête de l'emploi.
En plus, Olivier et Christophe se connaissent bien, ils avaient déjà travaillé ensemble, notamment sur Shakespeare Même Pas Peur. Donc ils avaient déjà l'habitude de ce genre de spectacle, puisque Shakespeare Même Pas Peur, ça consiste à résumer l'intégralité de Shakespeare en une heure et demie. Donc ils étaient déjà bien là-dessus. Et ils travaillent tous les deux comme clowns, eux, ils sont vraiment... dans le travail clownesque, Christophe, principalement avec Bruit qui court, par exemple. Voilà.
On reçoit régulièrement ici.
Et du coup, oui, c'est sûr que c'était fait pour...
Est-ce que ça serait possible d'avoir un petit extrait? Je sais que vous êtes tout seul.
Je ne vais pas faire tous les rôles.
Ah zut.
Oui, je vais vous faire un peu le début. Hein. Voilà. Notre histoire commence donc dans un petit village de la Mancha, dont plus personne ne se souvient du nom. Il vivait là un gentilhomme sec de corps, maigre de visage, toujours matinal et grand chasseur. On ne se souvient plus très bien de son nom. Quesada ou Quechada. Le plus probable, ça reste Quechana, mais ça n'a aucune importance pour notre histoire, car ce qui compte, c'est qu'en la racontant, on ne s'éloigne jamais de la vérité. Il vivait donc là dans sa maison, avec sa nièce, et il était passionné de littérature. Mais pas de n'importe quel livre, non, il adorait les romans de chevalerie. Il en avait oublié toute autre activité. Il les aimait tellement qu'il a fini par vendre une partie de ses terres pour acheter autant de volumes qu'il put en trouver. Et il les lisait et les relisait, les apprenant par cœur, se délectant particulièrement des déclarations d'amour et des lettres de défi. Et c'est tout ce que je peux faire sans mettre comme ça, mes camarades. Sinon, je suis obligé de faire les autres rôles.
Merci beaucoup. Mais c'est vrai, je pensais tout à l'heure, il y a un côté dans Don Quichotte, il y a un petit côté Emma Bovary. Parce que tout à fait comme Emma Bovary,
on n'y avait pas pensé à
il
ça.
Est contaminé par ses lectures.
Ah oui, ça pour le coup, oui. Oui, oui, oui. Si on était psychiatrique, on peut dire qu'il est complètement schizophrène, hein, le monsieur. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, et ça, ce n'est pas décrit dans le livre, hein, ça se passe très, très vite, mais donc le point de départ, c'est quelqu'un qui décide de vivre comme dans les romans de chevalerie. Je sais qu'on a des historiens ici, on va refaire un petit débat historique, si vous voulez. Mais c'était vraiment, Cervantes a écrit ça parce que c'était vraiment un genre très, très en vogue. À l'époque.
Avec et Amadis de Gaulle
Amadis de Gaulle, ouais, il n'est pas connu en France, mais en fait, en Espagne, c'est quelqu'un qui est aussi connu que chez nous, le roi Arthur. C'est vraiment le prototype du chevalier, quoi.
C'était un chevalier de Charlemagne.
Alors, si je me souviens bien, Amadis de Gaulle est censé être le fils d'un roi légendaire de France, le roi Francion, qui était, d'après les légendes hagiographiques françaises, un descendant des Troyens. Et qui, alors après, je n'ai pas lu Amadis de Gaulle, hein, mais en tout cas, le roman était extrêmement populaire en Espagne et du coup, a fait de nombreux enfants, hein, donc Bélianis de Grèce, Augier le Danois, etc., etc. Et tous les romans de chevalerie, donc, c'était vraiment le genre... d'ailleurs, dans Don Quichotte, il le montre parce que ce qui fait que la folie marche bien, c'est aussi qu'il y a tellement de gens qui connaissent les romans de chevalerie, qu'ils arrivent, en se moquant de lui, à jouer avec lui. Comme dans la scène donc, où il arrive dans une auberge pour se faire adouber chevalier, l'aubergiste connaît les romans de chevalerie. S'il ne connaissait pas les romans de chevalerie, il ne pourrait pas jouer avec les codes et continuer à se moquer de lui. Parce que vraiment, c'était de la culture populaire, quoi. C'est comme si Cervantes, aujourd'hui, il écrirait Don Quichotte, ça ferait de la télé-réalité, sans doute. C'était un peu quelque chose comme ça. Et je ne sais plus d'où je suis parti, moi.
Oui, ça serait intéressant de voir du coup les réactions des gens qui ont lu Don Quichotte et la manière dont ils se réapproprient les histoires entre eux, dont ils se les racontent. Peut-être les enfants rejouent les scènes de Don Quichotte, dont les parents peut-être avec les enfants, et dont peut-être ils se cachent quel impact Don Quichotte avait du coup sur les...
C'est sûr. Après, Cervantes, il a fait vraiment ça comme un pastiche, quoi, comme une parodie. Il se moquait des romans de chevalerie, clairement. Après son succès l'a dépassé, oui. Mais parce que lui justement le Cervantes le vrai était à l'opposé de ça,
complètement
à l'opposé de ça. À un moment j'aurais aimé qu'il apparaisse dans la pièce, parce que rien que la vie de Cervantes, j'ai jamais compris pourquoi personne n'avait fait un film, un grand spectacle sur la vie de Cervantes. Il a eu une vie absolument monstrueuse, incroyable.
Il était manchot,
il a perdu l'usage de sa main dans la plus grande bataille navale de son époque. Parce qu'il a été soldat pendant des années et des années. Il a été prisonnier en Algérie pendant 15 ans. Il a tenté de s'évader 4 ou 5 fois. Il a été racheté. Enfin, quand il a écrit Don Quichotte, il avait déjà plus de 40 ans, en fait. Et il a vécu une vie déjà très bien remplie de soldats, en fait. Et il a été se battre aux quatre coins de l'Europe.
Alors, on voit bien les historiens quasiment entre eux qui parlent. Alors, oui. Historien... Comment ça se fait qu'on se retrouve dans la pièce avec Fernand Braudel cité et...
Parce que ça, c'est une, je sais, c'est une blague d'historien que j'aime bien faire. ça vient, en fait, une idée qui est venue de la présentation de saison à la Vista, où il fallait qu'on monte une petite scène pour présenter Don Quichotte, et on était en pleine création, donc on était absolument... Déjà, on n'était pas pour présenter un extrait, parce qu'on trouve que finalement, ça ne vend pas forcément bien la chose devant un public comme ça, de faire un extrait d'un truc pas fini. Donc, on a eu l'idée d'un petit sketch donc de deux universitaires qui viennent parler de Don Quichotte avec un troisième qui ne comprend rien et qui part en pétant les plombs, qui devient fou, qui est rendu fou par leur... Par leur blabla. Et donc voilà, on part sur Don Quichotte, l'image de Dulcinea comme image mariale et évidemment un culte païen de Don Quichotte. Enfin, on peut partir là-dessus. Et du coup, comme je sais que des fois il y a des gens qui ont fait histoire ou comme ça, je glisse des petites références aux grands classiques qui nous ont fait suer quand on était sur les bancs de la fac en histoire. Fernand Braudel en tête, hein, ouais, bien sûr.
C'est vrai qu'on a deux historiens sur le plateau.
Non, parce que si vous avez trouvé Don Quichotte long, lisez Fernand Braudel.
C'est vrai,
si vous y arrivez. Alors on va rappeler donc que c'est Don Quichotte, ça se passe à la Vista. Je n'ai pas les horaires. Est-ce que quelqu'un a les horaires et les dates?
J'ai tout.
Alors vous pouvez nous le dire?
Oui. Alors donc on joue du jeudi au dimanche. Du coup, cette semaine et la semaine prochaine. Le jeudi et le vendredi, on joue à 19h. Le samedi à 21h et le dimanche à 18h30.
Vas-y.
Oui, je voulais dire aussi que c'est un spectacle qui a beaucoup de scolaires. Il y a beaucoup de scolaires qui vont venir voir, comme souvent à la Vista. Donc, c'est un spectacle aussi qu'on peut voir en famille.
Ouais. c'est du tout public au sens premier du terme.
Et c'est très sympa. J'espère que vous aurez une bonne continuation avec ce spectacle qui est très drôle.
Merci.
Il va tourner après la Vista ou
on espère bien.
Bah, oui, on espère pour vous aussi. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que Robin, quand je l'ai vu hier, il avait l'air de très bonne humeur en sortant du spectacle. Et toi, Christopher, tu avais l'air très très bien aussi.
Je suis encore de bonne humeur.
Mais merci de nous avoir accompagnés pour ce dernier plateau de Vendredi Théâtre. On se retrouve, nous, la semaine prochaine avec une spéciale mérite un large détour, c'est-à-dire les critiques féroces de nos chroniqueurs concernant l'actualité de ce premier trimestre de la saison 2013-2014. Et le 31 janvier, nous aurons également un événement, c'est la 100e de Vendredi Théâtre. Je rappelle qu'il y a encore le Festival de l'Acteur à l'ENSAD, donc jusqu'au 20 décembre. Festival de l'acteur. Donc, si vous voulez le programme, je ne l'ai plus en tête, il faut aller sur le site de l'ENSAD. Voilà, Vendredi Théâtre, c'est terminé pour cette semaine. Très bonne semaine théâtre à tous. Et on va se quitter toujours avec du Manuel de Falla. La danse rituelle du feu, c'est un extrait de L'amour sorcier, adapté pour piano par Arthur Rubinstein. Très bonne semaine théâtre à tous. Et puis, merci à Gilles à la technique.